n'est peut-être pas la mobilisation historique annoncée par les syndicats, mais c'est une mobilisation massive. Journée de grève aujourd'hui dans les écoles, collèges et lycées. On parlait de la bataille de chiffres dans le journal de 13h. 38% de grévistes en primaire selon le ministère, 75% selon le principal syndicat d'enseignants dans le primaire. Des manifestations, celle de Paris commence dans une demi-heure. Voilà pour le contexte à 87 jours du premier tour de la présidentielle. Invité du 13-14 aujourd'hui, Philippe Olivier, eurodéputé RN et conseiller spécial de Marine Le Pen. Bonjour monsieur.
Bonjour.
01 45 24 7000 pour les auditeurs qui veulent dialoguer avec vous. Soutien aux grévistes aujourd'hui, Philippe Olivier?
Oui, naturellement, c'est très emblématique de voir qu'il y a une sorte de révolte sociale contre les aberrations technocratiques du gouvernement en matière sanitaire. C'est un véritable calvaire pour les familles, pour les enfants. Moi, j'ai vu et tout le monde a vu d'ailleurs des files d'attente devant les pharmacies où des parents sont là avec leurs enfants dans le froid. Tout ça est un peu curieux, un peu stupéfiant même. On comprend évidemment la colère des parents et des enseignants.
Soutien, mais vous n'allez pas défiler avec eux. Pourquoi cela? Quitte à soutenir, autant aller jusqu'au bout.
Non, parce que nous n'avons pas l'habitude de le faire. Nous participons à nos propres manifestations.
C'est pas la culture du RN de défiler avec les profs.
Oui, mais enfin, on n'est pas là pour récupérer des mouvements. On les soutient. Et puis les gens disent ce qu'ils ont à dire.
Que ferait Marine Le Pen au pouvoir dans la circonstance actuelle? 361 000 cas de Covid supplémentaires hier en France, et puisqu'on parle de l'école, 75 000 cas quotidiens dans la tranche 0-19 ans, taux d'incidence 2500 chez les enfants. Que feriez-vous vraiment là, maintenant, dans cette sixième vague épidémique?
Écoutez, il y a évidemment une épidémie, il faut en prendre conscience.
En général et pour l'école.
Il y en a, il faut en prendre conscience. Pour autant, est-ce que le pass sanitaire ou le pass vaccinal sont la solution? Non.
On parle du pass dans un instant. L'école d'abord, oui, que feriez-vous pour l'école?
Eh bien, on réduirait, si vous voulez, le protocole à la prise de température frontale à l'entrée de l'école.
Donc on laisse circuler le virus encore plus qu'il ne circule.
Écoutez, le virus Omicron n'est pas dangereux au point qu'il faille tout désorganiser. Là, en l'occurrence, on a une sorte de panique sur ce virus avec des mesures qui ne peuvent même pas être appliquées tellement elles sont complexes.
Prise de température, s'il y a un cas positif, qu'est-ce qu'on fait?
Eh bien, écoutez, à ce moment-là, on avise. Éventuellement, on fait faire des tests, mais on peut mettre aussi des purificateurs dans les écoles.
On en arrive quand même assez vite aux tests, néanmoins.
On peut aussi contrôler les eaux usées des écoles. Il y a un certain nombre de mesures qui n'entravent pas, si vous voulez, les libertés ou le bon fonctionnement des services publics.
On mettrait fin globalement au protocole sanitaire à l'école, si vous me dites qu'on se limite à des prises de température, y compris pour les enseignants. Donc, parce que dans la manifestation et dans la grève d'aujourd'hui, il y a aussi la demande de masques, de purificateurs, de plus de mesures de protection. Mais on laisserait tomber le protocole, y compris pour les enseignants.
Écoutez, pour les enseignants, moi je ne sais pas s'il faut maintenir ou pas, mais en tout cas pour les enfants qui ont vis-à-vis de toutes ces mesures des comportements infantiles et donc qui ne permettent pas d'aller les rendre totalement efficaces, je crois qu'il faut faire preuve de réalisme.
Que propose le Rassemblement National pour l'école, puisqu'on parle beaucoup d'école aujourd'hui, Philippe Olivier?
Écoutez, d'abord, l'école, elle connaît une crise d'autorité, autorité des maîtres, et il faut donc rétablir de l'autorité. Et puis, il faut faire en sorte que l'école primaire apporte à tous les enfants de France une instruction, des savoirs élémentaires.
Vous reprenez le terme d'instruction comme Éric Zemmour?
Oui, l'instruction c'est quoi? Ce sont les savoirs élémentaires, lire, écrire, compter. Et on remarque que quand on arrive en sixième, il y a encore des enfants qui ont des difficultés en lecture, par exemple. Donc il y a un gros chantier de rénovation de l'école.
Et concrètement, on fait quoi? Chantier de rénovation, il se manifeste comment? Quelle mesure plus précisément? Zemmour, par exemple, dit, moi je rétablis le certif pour vérifier le niveau en CM2. J'enlève les heures de langues étrangères pour qu'il y ait plus d'heures de maths et de français. Est-ce que c'est des mesures comme ça que vous appelez de vos voeux?
Oui, bien sûr. Tout cela doit se voir évidemment avec les enseignants. Mais globalement, il faut effectivement renforcer les savoirs élémentaires. Je vous ai dit, lire, écrire, compter. Il faut également revaloriser la situation des enseignants, parce que quand on regarde leur situation par rapport à leurs collègues étrangers d'Europe, on se rend compte qu'ils ne sont pas très bien lotis.
De combien vous l'avez chiffré, ça? Anne Hidalgo, qui vient de détailler son programme, laisse tomber le doublement des salaires des enseignants, mais elle veut 2000 euros pour des instits débutants, voilà, en début de carrière. Est-ce que vous avez chiffré? Est-ce que vous avez une somme?
Non, tout ça, Tout ça sera communiqué par Marine Le Pen en son temps. Nous parlons là, je vous parle de revalorisation. Mmh. Évidemment, il ne s'agit pas de doubler le salaire des enseignants, parce que c'est un tout petit peu irréaliste quand même.
Globalement, Philippe Olivier, petite question sur le flou du programme là, que ce soit sur le Covid ou sur l'école. J'ai regardé le site de Marine Le Pen ce matin. Pour l'instant, les programmes détaillés, c'est pour l'outre-mer, pour l'immigration et pour le tourisme. Il n'y en a pas d'autres. Quand est-ce qu'ils arrivent, les programmes et les propositions très détaillées?
Alors, nous procédons par livret thématique. Oui. Et les livrets thématiques sont produits au fur et à mesure du développement.
Parce qu'on est à 87 jours du premier tour.
Oui,
quand
même. Le 5 février, vous n'ignorez pas que nous allons avoir une convention. Ouais. Et vous aurez une vingtaine de livrets thématiques disponibles. Et au fur et à mesure de la campagne, au fur et à mesure que les thèmes seront abordés, les livrets complémentaires sortiront.
On parlait du Covid sur le vaccin, puisque là encore aujourd'hui, il est question beaucoup des enfants. Est-ce que vous appelez à la vaccination des enfants et des adolescents?
Non, nous pensons que la vaccination des enfants et des adolescents n'est pas une priorité. Le vaccin pose un certain nombre de problèmes, mais le bilan coût-avantage ne nous semble pas...
Même si les scientifiques disent que justement ce rapport coût-avantage plaide en faveur du vaccin, y compris pour les enfants.
Écoutez,
vous ne leur accordez pas crédit là-dessus?
Les scientifiques disent beaucoup de choses et d'autres disent le contraire.
Il y a à peu près consensus, en tout cas pour les grandes institutions, haute autorité de santé, la dernière.
L'OMS est aussi critique sur un certain nombre de
mais sur la balance coût-bénéfice, il n'y a pas de doute.
Pardon?
Sur la balance coût-bénéfice pour le vaccin.
Oui, d'accord, mais nous laissons ça à la sagacité des parents. Nous ne voulons pas de vaccination obligatoire pour les enfants.
À propos de la vaccination en général, le discours de Marine Le Pen, c'est de dire « moi, je suis vacciné ». Mais je ne veux pas appeler, je ne veux pas m'introduire dans l'intimité des gens en appelant à vacciner. Là encore, il y a une question de quand on est au pouvoir, qu'est-ce qu'on fait? C'est-à-dire que malgré tout, le pass vaccinal, vous êtes contre, le pass sanitaire, vous êtes contre, a permis de booster la vaccination, de la développer, ce qui joue quand même un rôle clé dans le fait que l'épidémie d'Omicron, aujourd'hui, n'a pas de conséquences hospitalières aussi massives qu'on pouvait le redouter.
Non, mais
et du coup, quand on est l'appel à la vaccination permet, enfin voilà, la pression pour la vaccination permet aussi de développer et de lutter contre la maladie. C'est une chose de dire une chose dans l'opposition et de le faire au pouvoir.
Non, mais écoutez, il faut être très juste. On nous a dit officiellement, faites-vous vacciner. Mm-hmm. Une dose, vous verrez, tout ira bien. Puis on nous dit, il faut une deuxième dose. Puis maintenant, on nous dit, il faut une troisième dose. Alors, on n'ose pas les appeler troisième, quatrième dose, on appelle ça rappel. Et puis, on commence à nous dire, il y aura un rappel tous les 4 mois. On voit bien
ce qui est le cas pour beaucoup de maladies.
Non, pas des rappels.
La grippe, par exemple, tous les ans.
Vous n'avez pas un rappel de grippe tous les 4 mois, c'est pas vrai, ça. Ça prouve que la stratégie vaccinale, et uniquement vaccinale, ne va pas.
Ouais.
Parce qu'on nous avait dit, vous aurez une vie normale. Et les gens se disent, on nous a menti. Et la parole publique,
c'est aussi la science qui a progressé, qui a appris fur et à mesure. C'est aussi la science qui a appris et les variants.
Oui, mais vous ne pouvez pas me dire et vous ne pouvez pas nous dire que le vaccin a tout réglé. On continue à être à transmettre le virus et même à le recevoir en étant vacciné. Donc qu'on arrête de nous dire que la stratégie vaccinale est la seule possible ou la seule qui vaille.
Ce qui n'était pas le sens de ma question, mais je vois votre réponse. Quelques petites phrases clés du débat politique. Philippe Olivier, Éric Zemmour, hier sur BFM, Marine Le Pen et la Arlette Laguiller de la droite nationale.
Oui, moi je remarque que ce sont des petites attaques personnelles, un peu perfides, qui n'ont pas de sens politique. Si vous voulez, la grande question qui se pose...
Le sens, en l'occurrence, c'est de dire c'est sa troisième candidature, ça va bien, enfin, dans l'esprit d'Éric Zemmour, j'imagine.
Oui, mais cela dit, il est largement devancé dans les sondages, il a choisi un positionnement qui est extrêmement brutal, extrêmement radical, avec des provocations, des outrances. C'est son choix, il continue d'ailleurs, il est dans l'outrance contre Marine. Nous, on a choisi de proposer un projet qui est national et qui est politiquement et juridiquement viable. Nous le faisons et je pense que les sondages nous créditent de la réussite de cette position politique.
Ça n'est pas le cas de son projet à lui.
Il n'est pas... Écoutez, pour l'instant, quand il n'a pas de projet... il est plutôt dans l'invective et sinon il fait du copier-coller du projet de Marine.
Question au standard pour vous, Philippe Olivier. Question de Denis dans l'Oise. Bonjour Denis.
Oui, bonjour.
Nous vous écoutons.
Bonjour monsieur.
Je constate que monsieur le conseiller de Madame Le Pen reste dans le flou sur les questions posées en termes de santé, d'éducation, mais ce n'est pas pour me surprendre. Non, je voulais poser une question concise. si Monsieur Éric Zemmour n'obtient pas les 500 signatures nécessaires à sa candidature, est-ce que le Front, non, Rassemblement National, donc Marine Le Pen, est prête à faire une alliance avec cette personne? Et c'est là que je suis un peu troublé, parce que en termes d'opinion, si on ajoute les calculs concernant ces deux candidats, ce qui me choque et me déstabilise, c'est quand même que près de 28% de Français sont prêts à voter pour des partis d'extrême droite.
De fait,
et en cela, ça m'inquiète beaucoup.
De fait, les enquêtes d'opinion sont flatteuses. Philippe Olivier.
Je vais vous inquiéter encore plus parce que vous avez fait un mauvais calcul. En fait, c'est pas 28, c'est plutôt 30, voire 32, voire 35.
Si on ajoute Dupont-Aignan. Si,
exactement. Et donc, le courant national est extrêmement puissant. Il va de soi que si Éric Zemmour n'était pas candidat, ce que je regretterais, parce que la démocratie exige que tous les candidats qui ont une légitimité à se présenter puissent le faire, eh bien, si M. Zemmour n'était pas candidat, effectivement, ses électeurs se reporteraient en grande partie, je pense, vers Marine, qui non seulement fait un certain nombre de constats qui sont similaires, mais apporte des solutions concrètes.
À combien en est-elle de parrainage ?
Écoutez, on va pas se mentir, on rame, c'est compliqué, c'est difficile.
Mais pourquoi combien ?
Écoutez, je peux pas vous dire, je m'occupe pas de ça.
Zemmour dit 300, Mélenchon dit 400.
On doit être entre 400 et 500, mais c'est vrai que c'est difficile. Pourquoi ? Parce qu'il y a un certain nombre de maires qui subissent les pressions des présidents d'agglomération qui leur disent, si vous donnez votre signature à tel ou tel, eh bien, vous n'aurez plus de subvention. Il y a là un détournement de la démocratie.
Est-ce que vous allez vous tourner vers les maires LR, puisque, au fond, la ligne à LR, c'est de dire, ceux qui donnent leur parrainage à Éric Zemmour ou Marine Le Pen s'excluent eux-mêmes du parti, mais nous ne donnons pas de consigne particulière. Est-ce que vous vous tournez vers les maires LR pour obtenir des parrainages s'il en manque?
On se tourne vers tous les maires de France. Les maires ne sont pas là pour donner un parrainage qui signifie une adhésion à la candidature, mais le fait simplement de dire que la candidature est solide, elle est sérieuse, elle n'est pas fantaisiste. Voilà le sens du parrainage. Donc on s'adresse évidemment à tous les maires.
Est-ce que le fait de ramer, comme vous dites, Philippe Olivier, ça ne signe pas un échec du Front National devenu Rassemblement National? Au fond, tous les partis, Anne Hidalgo, beaucoup plus bas dans les sondages que Marine Le Pen, n'aura pas de problème à réunir ses parrainages, parce qu'il y a tous les élus, PS, le FN devenu RN est maintenant dans le paysage depuis fort longtemps. Vous n'avez pas un réseau d'élus locaux suffisamment solide pour vous parrainer?
Oui, parce que ça tient au déficit démocratique. Quand on est le premier parti, on a été le premier parti aux élections européennes, et que quand on est le premier parti et que sur 1000 parlementaires, on en a 7, c'est qu'il y a un problème majeur. Quand Madame Hidalgo, qui est créditée de 3% des voix, peut se targuer de 2000 parrainages, alors qu'elle ne représente rien dans l'opinion, c'est qu'il y a un problème.
Il faut s'interroger sur ce problème démocratique. Il y a aussi le fait que vous avez perdu un tiers de vos élus régionaux moitié des élus départementaux dernières élections.
On a 300 élus régionaux. Écoutez, le scrutin nous est particulièrement défavorable. Et malgré tout, on y participe et on ne conteste pas le résultat des élections. Créditez-nous au moins d'un comportement extrêmement démocratique. Nous allons à cette élection avec l'idée d'être candidat et de présenter un programme. Il faut que les institutions jouent leur rôle et nous permettent de concourir.
Et de ce point de vue-là, le président du Sénat, Gérard Larcher, a appelé les maires à jouer leur rôle et à parrainer tous les candidats.
Il est dans son rôle de faire fonctionner les institutions, et notamment les institutions locales.
Merci Philippe Olivier d'être venu dans les studios de France Inter. Ce week-end, où est-ce qu'elle sera, Marine Le Pen? On ne sait pas où est-ce qu'elle sera.
Elle sera en Bretagne, ouais. Elle va parler des éoliennes et de l'énergie, elle parlera également des pêcheurs.
Merci d'être venu dans les studios de France Inter.